L'occasion qui me donne de partager sa parole ce matin. Comme je dis, le plus grand défaut que nous pouvons avoir dans le partage de la parole de Dieu lorsque l'on prêche, c'est l'habitude. Et quand on devient habitué, on devient négligent, mais nous devons prendre au sérieux ce que le Seigneur nous a donné comme don et comme ministère, afin non d'exciter le peuple, mais de nourrir le peuple. Parce que nous pouvons prêcher sans amener la parole de Dieu. Mais nous pouvons ne pas prêcher et amener la parole de Dieu. Car la Bible dit qu'il est un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, et il vint comme celui qui préparait le chemin. Ce matin, j'aimerais rapidement vous partager la parole de Dieu, et j'essaierai plus en mode enseignement, c'est ce que je pense du moins, qu'en mode prédication, mais tout est au contrôle du Saint-Esprit. J'aimerais vous parler de la prière d'enfantement. Mes amis Facebook ont déjà eu la chose depuis le mercredi. Alors ça devient une pression quand tu annonces mercredi déjà, qu'est-ce que tu vas prêcher dimanche? Et puis tu pries, tu dis j'espère que le Saint-Esprit ne va pas changer, j'espère que le Saint-Esprit ne va pas changer. Nous allons lire trois textes pour fonder ce moment avec celle qui est toujours mon épouse. Dernière nouvelle. Quelqu'un m'a écrit en me disant « Ah, mais c'est bien qu'elle lise. » Je dis « Mais oui, ça me fait moins de travail. » on a juste pris l'affiche là parce que c'est ce qui était déjà sur Facebook. Au lieu de faire un PowerPoint, je ne suis pas une personne friande de PowerPoint. Je trouve que ça me bloque. Et parfois, je dois suivre le flot du Saint-Esprit. PowerPoint dit « Bon, tout est sorti et tout le monde est en mode lecture. » Et je crois qu'il faut couler avec le Saint-Esprit. Amen. Il faut prêcher dans la dimension des aigles. L'aigle ne vole pas, il plane. Il suit le vent. Si le vent va à gauche, on suit le vent. Le premier texte sera, pour ceux qui prennent des notes, et je vous encourage à le faire, le premier texte sera dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 15, le verset 1 à 18. Ensuite, si vous prenez toujours des notes, je vous donne déjà les textes. Le deuxième texte sera dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, le verset 41 à 44. Et finalement, le dernier texte, nous revenons dans le livre de la Genèse, ça sera le chapitre 32, le verset 24 à 28. Le texte normalement passera à l'écran, c'est déjà là, merci beaucoup Christelle. Donc, Genèse chapitre 15, le verset 1 à 18, nous lisons pour la gloire de Dieu.
Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderais ?» Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. » Ils y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate.
1 roi, chapitre 18, le verset 41-44, le texte est court, donc il apparaît ici derrière. Mon épouse va faire la lecture, nous pouvons faire la lecture ensemble en suivant son rythme. 1, 2, 3.
Et Élie dit à Acab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Acab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit cette fois, « Retourne. » À la septième fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Acab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. »
Amen. Et nous terminons en revenant dans Genèse, chapitre 32, le verset 24 à 28. Est-ce que vous êtes là? Okay. Nous lisons Genèse 32 ensemble, versets 24 à 28. Nous lisons pour la gloire de Dieu.
Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne maîtrisa pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il lui dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. »
Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur ? Nous pouvons acclamer la parole du Seigneur ? Avant que je ne puisse commencer à dire ce que Dieu voudrait nous dire ce matin, j'aimerais que tu te tournes vers deux, trois personnes, tu lui dis, il est temps d'enfanter. Tourne-toi vers deux, trois personnes, dis, il est temps d'enfanter. Je vais beaucoup travailler dans ce qu'on appelle dans l'imagé pour pouvoir nous dire ce que le Seigneur veut nous dire, et je voudrais peut-être m'excuser si parfois je vais être un peu graphique, mais j'aimerais annoncer à l'atmosphère spirituelle de ta vie qu'il est temps d'enfanter. J'aimerais annoncer à l'atmosphère spirituelle de l'Église, il est temps d'enfanter. Amen. Depuis le début de l'année, nous nous sommes engagés dans ce qu'on appelle l'année de réajustement. Et le réajustement est un processus dans lequel chacun doit s'engager pour se mettre à la fréquence de Dieu. Et en réalité, c'est seulement lorsqu'on se met à la fréquence de Dieu ou à l'heure de Dieu que le réajustement passe de l'étape de slogan à l'étape de réalisation des plans et des promesses de Dieu dans notre vie. Donc, nous pouvons, pendant toute l'année, est-ce que c'est possible d'enlever l'affiche là, comme ça tous les gens se concentrent ici, parce que j'ai l'impression que ça distrait beaucoup plus. Pendant le temps de réajustement, l'année de réajustement, nous pouvons simplement faire des slogans, 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 mais c'est quand on attrape la fréquence de Dieu que nous pouvons, alors à ce moment-là, passer de l'étape des paroles qui ont été justes, des déclarations à l'étape de réalisation. Et ma prière, c'est que chacun d'entre nous puisse, cette année-ci, 2015, vivre son réajustement. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement à déclarer des slogans, mais à vivre la réalisation des promesses de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Ainsi donc, sans le réajustement, il est impossible pour nous de voir la puissance de Dieu en action. Et le réajustement devient donc un impératif et un incontournable pour marcher dans les promesses de Dieu et pour voir la gloire de Dieu se réaliser dans nos vies. Quelqu'un dit Amen. Il est important pour nous à ce moment-là de comprendre le réajustement. Le réajustement porte en fait deux dimensions. Dans un véritable réajustement, il y a la dimension naturelle, c'est-à-dire la dimension physique, la dimension intellectuelle, la dimension sociale, mais il y a aussi dans tout réajustement la dimension spirituelle. Et les deux dimensions ne sont pas des dimensions que nous devons ignorer. Amen. Alors, je vais pouvoir, dans un instant, pouvoir vous l'expliquer parce que je mets la fondation de ce que je vais pouvoir vous dire ce matin. Les deux dimensions, la dimension physique et la dimension spirituelle fonctionnent ensemble. pour pouvoir le comprendre, c'est que la dimension, les deux fonctionnent comme les aiguilles d'une montre. La dimension spirituelle, c'est les minutes. La dimension physique, c'est les heures. Juste là, je peux déjà m'arrêter. Ça veut dire que quand les minutes bougent, qu'est-ce que les heures doivent faire? Ils doivent bouger. Le chrétien qui sait travailler dans la dimension spirituelle bougera toujours le naturel. Notre problème, c'est que nous luttons avec les heures sans bouger les minutes. Et le Seigneur dit que c'est dans la dimension spirituelle. C'est lui qui sait influencer la première dimension, influencera toujours la seconde dimension. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Donc, en réalité, le véritable réajustement commence par le réajustement dans la dimension spirituelle. Parce que quand la dimension spirituelle est réajustée, le naturel suit naturellement. Le chrétien qui sait se réajuster dans le spirituel, le naturel, il ne luttera jamais avec le naturel parce que le naturel est obligé d'obéir. Frère, même si les heures refusent d'avancer, quand les minutes bougent, les heures doivent suivre. Quand les minutes bougent, les heures doivent suivre. Si les minutes reculent, les œuvres reculent. Si les minutes avancent, les heures avancent. Le réajustement doit commencer par un réajustement dans la dimension spirituelle, avant d'être un réajustement dans la dimension naturelle. C'est ce que nos trois personnages, Abraham, Élie, et Jacob ont compris, car les trois personnages, on les trouve dans une dimension spirituelle en train de lutter avec Dieu pour que leur condition naturelle puisse changer. Amen. 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 Et quand ils sont entrés dans leur dimension spirituelle, ils ont compris quelque chose. La seule chose qui amène le changement dans le naturel, c'est ce que j'appelle la prière d'enfantement ou, en d'autres termes, la prière de réajustement. Il y a deux types de prières que tu peux faire qui peuvent réajuster toute ta vie. 2 Chroniques, chapitre 4, le verset 10, dit que Jaébé était plus considéré que ses frères. Mais pourtant, sa mère lui avait donné le nom de Jaébé en disant que c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Or, la Bible dit que Jaébé invoqua l'Éternel. Il était dans une situation où le naturel l'empêchait de prospérer. Il était dans une dimension où le naturel l'empêchait d'être un homme heureux, l'empêchait d'être un homme prospère. Mais la Bible dit que Jaébé a fait un réajustement dans l'autre dimension. Dis à quelqu'un, ton problème est dans l'autre dimension. Dis à quelqu'un, ton problème est dans l'autre dimension. La Bible dit que, qu'est-ce que c'est que la prière d'enfantement? C'est la prière, c'est ce type de prière, d'après Romains chapitre 4, verset 17, qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. En tant qu'enfant de Dieu, vous possédez en vous la nature de Dieu. Vous possédez en vous la capacité de Dieu. Vous possédez en vous la puissance de Dieu. Romains, est-ce que je peux avoir le texte? Romains chapitre 4, verset 17, qui dit que Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si cela existait, et cela vient à l'existence. Vous avez en vous, Dieu a mis en vous la capacité d'appeler des choses dans votre vie, d'appeler dans votre vie le bonheur, d'appeler dans votre vie la prospérité, d'appeler dans votre vie la guérison, d'appeler dans votre vie la réussite, d'appeler dans votre vie le succès, d'appeler dans votre vie l'expansion, tel qu'il dit dans Ésaïe, élargis l'espace de ta tente. Remarquez que ce n'est pas Dieu qui dit « je vais élargir ». Dieu dit élargis l'espace de ta tente. Et ce matin, tu dis, mais comment je veux le faire? Je suis faible. Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Tu dis, mais comment je veux le faire? Il dit à Zacharie, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Qui es-tu? Grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Vous avez en vous une force, la force du Saint-Esprit, la force de la prière qui dort. Vous devez activer cette force afin de créer dans votre vie la réalité que vous voulez voir. Jaébé a dit, je suis né avec un nom qui m'apporte la malédiction. Mais il dit, oh Dieu, je t'invoque, élargis mon espace. La prière d'enfantement, c'est la prière qui fait passer la promesse de Dieu de la dimension de l'invisible dans le visible. Si tu sais ajuster les minutes de ta vie, tu sauras changer les heures de ta vie. Je vais aller plus loin. Si tu sais changer les heures de ta vie, tu sauras changer les saisons de ta vie. Si tu sais changer les saisons de ta vie, tu pourras changer les années de ta vie. Si tu peux changer les années de ta vie, tu peux même rallonger ton temps de vie. Tu peux même dire avec le psalmiste, non, je ne mourrai pas. Je réajuste mon ordre. Mais ce n'est pas ce qu'Ézéchias a fait. On lui dit, tu vas mourir. Il va dans le spirituel, il travaille. On lui dit, bon, il a réajusté de 15 ans. Dieu a rallongé. Bien-aimé, vous dormez avec une puissance en vous. Vous dormez avec une puissance en vous. La prière de réajustement, c'est la prière d'enfantement, c'est la prière qui nous rend responsables de notre destinée. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent avec, comme ce qui arrive, arrive. L'enfant de Dieu véritable est un lion. Il y a des situations qu'il dit, non. Élie s'est fâché, il a fermé le ciel. Il est parti pendant 3 ans, la clé du ciel était fermée. Frère, il y a des situations dans ta vie dans lesquelles tu peux fermer le ciel. Tu dis, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Un serviteur de Dieu raconte qu'il arrive quelque part, son épouse devait prendre l'avion, et puis, non, ton épouse est en retard, l'avion, on doit partir. Il dit, quoi? Vous allez partir? Il dit, non, l'avion ne partira pas. Il dit, démarrez, partez. L'avion est parti, lui rentre aux toilettes, prier. L'avion est parti au tarmac, l'avion est revenu. L'avion a attendu. Quand l'épouse est entrée, l'avion a décollé. Vous avez une puissance. Notre problème, c'est que nous regardons tellement les mauvais résultats que nous avons eus que nous ne pouvons pas regarder la dimension de Dieu dans laquelle nous pouvons travailler la dimension spirituelle pour que le spirituel influence le naturel. Vous avez en vous une puissance de Dieu. Amen. Daniel chapitre 9, le verset 1 à 23, c'est ce que Daniel dit. Daniel dit que quand il a compris, d'après le prophète Jérémie, que le temps de la captivité était terminé, Daniel ne s'est pas assis en disant, bon, ben si ça arrive, ça arrive. Daniel ne s'est pas assis en disant, mais Dieu l'a dit, ça va arriver de toute façon. Non, Daniel a dit qu'il est rentré dans la prière pendant 21 jours en train de travailler la dimension spirituelle pour que la promesse passe de l'étape de parole à l'étape d'action. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Parce que vous avez sur vous des projets, vous avez sur vous des paroles de Dieu, vous ne les voyez pas s'accomplir parce que simplement nous sommes assis en disant que ça va arriver normalement. Or, le livre de Daniel nous révèle que quand Daniel s'est mis à prier, Dieu lui a révélé l'opposition. Dieu lui dit que quand tu as commencé à prier, je t'avais déjà exaucé. Mais le prince de Mèdes et de Perse avait mis une barrière dans la dimension spirituelle. Alors pendant 21 jours où tu priais, tu étais en train de réajuster l'aiguille des minutes afin que les heures changent. Peux-tu réajuster ta vie? Peux-tu réajuster ta vie? Je ne vous entends pas. Peux-tu réajuster ta vie? Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, bien-aimés, plusieurs ici sont assis. Vous avez un projet qui vous tient à cœur. Vous avez une parole que Dieu a prononcée dans votre vie. Vous avez une vision exacte de ce que vous devez faire. Vous avez même un appel au ministère. Et je vais vous parler de mon cas. Pendant des années, le Seigneur m'a appelé. Et j'étais un chrétien vraiment ouin, mais fainéant. Donc, fainéant vraiment. Donc, Dieu a dit, ça va arriver. Là, j'attends, ça n'arrive pas. Là, j'attends, ça n'arrive pas. Dieu a dit, ça va arriver. Et plusieurs sont assis comme ça. Plusieurs sont assis avec des choses que Dieu a dit sur leur vie. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit commence à me faire comprendre que je ne peux pas juste m'asseoir en disant, j'ai un appel au ministère, les portes vont s'ouvrir. Non. Dieu, le Saint-Esprit m'a dit, je t'ai dit que je ferais sauter les verrous de fer. Mais pour que les verrous de fer dans ta vie sautent, tu dois aller travailler le spirituel. Plusieurs fois, nous nous battons avec les gens. Nous nous battons dans le physique parce que nous n'allons pas réajuster dans le spirituel. Quand tu sais réajuster dans le spirituel, les hommes ne te font plus peur. Quand tu sais réajuster dans le spirituel, le diable ne te fait plus peur. Quand tu sais réagir dans le spirituel, tu n'as plus peur des circonstances, car tu comprends que quand tu travailles dans la dimension spirituelle, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui s'opposent à toi travaillent pour toi. Ceux qui sont pour toi travaillent pour toi. Oh Dieu, donne-nous un peuple qui peut voir comme Daniel que le temps d'accomplissement de leurs promesses est arrivé. Donne-nous un peuple qui peut saisir dans l'esprit que le temps de leur réajustement est arrivé. Sais-tu que ton heure de réajustement est arrivée? Sais-tu que ton heure de réajustement est arrivée? La prière de réajustement, c'est la prière qui nous amène à enfanter. Ésaïe 55, le verset 10 à 11, je ne sais pas si on peut la voir. Il dit, comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, la moisson que je lui ai confiée. Cette version-là, moi, les versions modernes, moi, je suis Louis II, 1979. Voilà. Ainsi en est-il dans ma parole qui ne retourne pas à moi sans avoir accompli mes desseins. En d'autres termes, mon bien-aimé, quand tu reçois une parole de Dieu, tu reçois une sémence. Tu es fécondé. J'aimerais te dire que tu portes une grossesse spirituelle. Je ne parle pas de mari de nuit, je parle d'une grossesse spirituelle. Car la Bible dit que quand tu reçois la parole, c'est comme la pluie qui féconde la terre. Quand tu as une vision de Dieu, tu as été fécondé par quelque chose de divin en toi. Et tu dois passer de l'étape de fécondation à l'étape d'accouchement. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Tu dois passer de l'étape de fécondation. La fécondation, c'est quand il se passe une intimité entre toi et ce que Dieu a dit. Dieu a dit, je t'appelle au ministère. Très bien, tu as été fécondé. Dieu dit, je veux faire de toi un homme prospère dans les affaires. Très bien, tu as été fécondé. Dieu dit, je veux faire de toi un grand artiste. Très bien, tu as été fécondé. Dieu dit, je veux te donner les papiers, le séjour dans ce pays. Très bien, tu as été fécondé. Mais qu'en est-il maintenant de ce qui se passe entre le moment où tu as été fécondé, le moment où la parole de Dieu a eu un impact dans ton sein spirituel, et le moment où maintenant il doit avoir une réalisation. Amen. Là, j'aimerais poser quelques fondements, mes bien-aimés. Êtes-vous avec moi ce matin? Lorsqu'on parle de qu'une femme est enceinte, c'est qu'il y a eu fécondation. Amen. Or, la fécondation, et notez-le bien si vous prenez des notes, la fécondation n'est pas une garantie qu'il y aura nécessairement un accouchement. J'aimerais parler aux gens qui avortent plusieurs choses dans leur vie. Des projets qui ont avorté, des plans qui ont avorté, des mariages qui ont avorté, un appel au ministère avorté. Le fait que Dieu vous donne une promesse. Vous avez une responsabilité. Une femme qui attrape une, qui devient enceinte, a une responsabilité envers ce qu'elle porte en elle. Le problème, c'est que nous avons beaucoup de chrétiens avec des promesses, mais qui ne s'en occupe pas. Un jour, hein, je souffrais tellement, je me suis fâché. J'avais un cahier dans lequel j'avais écrit toutes les prophéties pour ma vie. Frère, j'ai jeté le cahier. Aujourd'hui, je regrette parce que maintenant, je dois cultiver dans ma mémoire. Pourquoi? Parce que j'étais dans une situation où je souffrais tellement. Je dis, de toute façon, c'est n'importe quoi. Je jette. Mais j'ai jeté des choses dont j'aurais eu besoin aujourd'hui. Parce que tu souffres, ne jette pas la semence. Parce que tu souffres, ne jette pas la semence. J'aimerais te parler de la part de Dieu. Plusieurs sont enceintes de projets. Mais le fait de porter grossesse n'est pas une garantie qu'il y aura accouchement. Entre l'étape de fécondation et l'étape d'accouchement, plusieurs choses peuvent se passer. Plusieurs, comme on appelle ça en statistique, il y a plusieurs variables qui doivent entrer en compte pour qu'il y ait un accouchement. Amen. Lorsque nous parlons de ça, mes bien-aimés, j'aimerais vous dire que lorsqu'on parle d'Abraham, Abraham était enceinte de la nation d'Israël. Lorsqu'on parle de Élie, Élie était enceinte d'une nouvelle saison dans la vie du peuple d'Israël. Lorsqu'on parle de Jacob, Jacob était enceinte d'un nom nouveau. J'aimerais te dire que même si tu regardes ta vie, tu as l'impression qu'il n'y a pas un avenir, il y a une semence de Dieu en toi et tu as la responsabilité de veiller sur la semence de Dieu dans ta vie pour que cette semence-là puisse germer, porter du fruit, car ton bonheur dépend de la semence que tu as en toi. Quelqu'un dit amen. Alors, j'aimerais continuer à poser mes fondations, mes bien-aimés, pour vous dire qu'il y a principalement trois raisons pour lesquelles il y a fécondation, mais on n'arrive pas à l'accouchement. Est-ce que vous voulez les savoir? Premièrement, c'est une anomalie. Il peut y avoir dans le développement du fœtus une anomalie qui fait que la grossesse est perdue. Et je ne voudrais pas choquer une femme qui a des difficultés de ce côté-là, mais c'est l'imagerie que j'utilise. 2 Samuel chapitre 15, 16, 17 et 18 nous parle d'Absalom. Si vous lisez bien l'histoire d'Absalom entre les lignes, la relation entre David et Absalom, David aimait Absalom. Et quelque part dans les commentaires, vous pouvez réaliser que David aurait vu Absalom comme son successeur. C'est pour cela que David va tout faire en tout temps pour protéger Absalom. Mais Absalom va développer une anomalie dans son développement. Absalom va devenir un rebelle. Et sa rébellion va faire qu'il ne va jamais s'asseoir sur le trône. Et sa rébellion va faire qu'Absalom ne va jamais, atteindre le plein potentiel de ce qu'il avait accès. Parce que si vous regardez vraiment Salomon arrive au trône comme un accident, en fait. C'est que, si on dirait dans un langage politique, il y a eu un coup qui a été monté, puis on l'a propulsé au trône. Au point où quand il arrive au trône, il n'est même pas préparé, il dit à Dieu, donne-moi la sagesse. Il se peut que Dieu vous a appelé au ministère, il se peut que Dieu vous a appelé dans un certain domaine, mais vous n'apprenez pas de la bonne manière. C'est des choses qui font que, même si Dieu a fait la promesse, parce qu'il y a des anomalies en vous, il y a des choses qui ne sont pas bien assises en vous, ben vous ne pouvez pas vous développer. Il faut que lorsque la semence de Dieu est en nous, il faut qu'il y ait un développement normal en nous. Amen. Et l'anomalie peut être simplement que Dieu vous appelle peut-être au ministère et vous rentrez avec des doctrines tellement bizarres. Vous vous associez à des gens tellement bizarres. Vous pensez que le ministère, il faut absolument faire tomber les gens. Vous vous retrouvez, vous allez peut-être en Inde chercher des trucs. Comme ça, j'ai la puissance. Mais c'est des anomalies qui font que vous vous écartez de votre appel et vous ne pouvez pas arriver à l'étape de rentrer dans votre plein appel. La deuxième des choses qui fait qu'il y a, lorsqu'il y a fécondation, il manque justement que la semence que Dieu a placée en nous, comme dans le naturel, parce que le naturel nous enseigne ce qui arrive dans le spirituel, c'est que le fœtus dans le sein maternel peut développer des infections. Amen. Et si vous regardez Hébreux chapitre 12, le verset 15, Hébreux 12, 15 dit que qu'il n'y ait pas en vous des racines d'amertume qui produisent des rejetons. Les racines d'amertume dans la vie des enfants de Dieu peuvent être des amertumes pour juste un échec que vous avez vécu. Dieu vous a peut-être appelé que vous serez un homme d'affaires prospère et ça fait trois fois que vous essayez d'aller dans les affaires et les affaires ne marchent pas. Vous avez développé les amertumes tellement que quand on vous propose même des opportunités d'affaires, l'amertume fait que soit vous ne travaillez pas bien ou bien vous ne voulez pas simplement et cela peut produire à ce que la semence de Dieu en vous puisse mourir. Ne laissez pas l'amertume vous vous dévorer. Il peut arriver aussi, vous êtes appelé par Dieu pour le servir et vous avez vécu tellement de rejet, tellement d'humiliation dans le ministère que vous êtes devenu amer envers les gens. C'est des choses qui font que la semence que Dieu a mis en vous peut mourir. Quelqu'un dit amen. Êtes-vous avec moi ce matin? Êtes-vous béni ce matin? Troisièmement, la troisième des choses qui fait que la semence que Dieu a mis en vous peut n'est pas arriver à son terme, parce que mon but c'est de t'expliquer ce qui t'arrive et de te prévenir contre certaines choses, c'est simplement un avortement. Deutéronome chapitre 1, le verset 19 à 36, Moïse raconte comment est-ce que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Ce peuple avait la semence en eux, était enceinte d'un projet qui était entré dans le pays promis. Mais la Bible dit que la génération sortie d'Égypte est une génération qui a avorté le projet dans le désert. Ils ont avorté le projet. Pourquoi? Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable, c'est eux-mêmes qui ont avorté. Pourquoi? Parce qu'au moment où on vient pour leur dire que le pays est là, oui, il y a des obstacles pour entrer dans le pays, le peuple a refusé d'entrer dans le pays. Une des raisons qui fait que nous ne voyons pas souvent l'accomplissement des promesses de Dieu, c'est que la résistance à l'accomplissement ne vient pas du diable, mais vient de nous-mêmes. Vient de nous-mêmes. Je vous donne un exemple. Le Seigneur vous appelle. Il dit, mon frère, le Seigneur t'appelle et tu seras un grand prédicateur. Pendant 10 ans, toutes tes prédications, c'est dans des églises de 15 personnes. On t'invite, tu dis, non, moi le Seigneur m'a appelé. Je serai un grand prédicateur devant 15 000 personnes. S'il y a 10 personnes, je n'y vais pas. Mais c'est le processus normal du développement du fœtus en toi. Frère, accepte. Et tu avortes. Les années passent. Un jour, tu te réveilles. Tu as le message, mais tu n'as plus l'auditoire. Le Seigneur vous appelle. Tu seras un grand directeur. On t'embauche dans une entreprise, un poste d'entrée de données. Mais tu sens dans ton cœur que tu dois être là. Mais l'orgueil est tellement grand que tu refuses et tu avortes. Frère, je suis venu comme un médecin de Dieu pour dire arrêtons les avortements dans nos projets et les plans de Dieu dans nos vies. Arrêtons. Nous avons une responsabilité. Un petit commencement ne signifie pas nécessairement une petite fin. Un petit commencement ne signifie pas. Et beaucoup de gens sont assis, veulent commencer absolument en haut. Dieu dit, commence petit et je veux bénir le petit là. C'est quand David était seul dans la prairie en train de chanter, tout seul, devant des moutons qui ne pouvaient ni dire amen ni alléluia. Est-ce qu'il jouait en regardant si les loups venaient, si les ours venaient? Je ne sais pas. Mais pendant qu'il jouait, quelqu'un de la cour l'a repéré. Quelqu'un dans ton travail doit repérer comment tu travailles avec excellence. Quelqu'un doit repérer comment tu travailles dans l'église avec excellence. Ce n'est pas là où tu es, c'est ce que tu fais. Ce n'est pas là où tu es, ce n'est pas les circonstances. Bien-aimés, les gens qui voient l'accomplissement ne blâment pas ce qui leur arrive sur les circonstances. Les gens qui voient leur réajustement ne blâment pas ce qui leur arrive sur les autres. Ils prennent la pleine responsabilité. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Alors, lorsque nous recevons une parole de Dieu, le texte d'Ésaïe 55 dit que nous sommes fécondés par la parole de Dieu. Parce que ce que Marie a reçu, c'est une parole. Mais la parole a donné Jésus. Amen. Je vous prouve ce que je vous dis dans la parole de Dieu. La parole a donné Jésus. Maintenant, quand vous recevez une parole de Dieu dans votre vie, dans votre cœur, vous passez de l'étape de fécondation à l'étape de gestation ou encore à l'étape d'incubation. L'étape de gestation, c'est la période qui se passe entre le moment où il y a eu fécondation et le moment où maintenant il va y avoir gestation pour que la promesse grandisse en vous. Dieu fait la promesse à Abraham qu'il aura Isaac, mais il dit à Abraham, pour que tu possèdes le pays, il y aura une période de gestation de 400 ans. Combien de temps doit durer ta gestation? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Combien de temps Dieu dit à Abraham, le type de sémence que tu portes ne peut pas germer en 10 jours. Le type de sémence que tu as demande une période de gestation de 400 ans. Combien ici portent une sémence de la part de Dieu? Là, il y a peu de mains maintenant. Hein? Combien portent une promesse, une vision, un projet? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelle est la période de gestation que vous devez avoir? Je vais vous dire, bien-aimé, la période de gestation des rats, c'est 20 jours. Les chiens, 65 jours. Les hommes, 280 jours ou 9 mois. Les baleines, 336 jours. Donc, au plus, c'est grand. Les éléphants, 600 jours. Donc, au plus, ce que Dieu a pour toi est grand. Au plus, la période de gestation. Frère, ce n'est pas les circonstances qui sont un problème dans ta vie. C'est l'ignorance de ta période de gestation. Est-ce que tu peux le dire à quelqu'un? Demande-lui, connais-tu la longueur de ta période de gestation? La période de gestation ou la période d'incubation pour que Moïse passe de Moïse le berger, de Moïse le fugitif, à Moïse le grand leader d'Israël est une période de gestation de 40 ans. 40 ans d'oubli, 40 ans de frustration, 40 ans où tu te demandes si Dieu est juste, 40 ans où tu te demandes mais pourquoi même je me suis engagé par là. Trop tard, tu es enceinte d'un projet de Dieu, tu dois passer par une période de gestation. Oh Dieu, aide-moi à connaître ma période de gestation. Alléluia. La période de gestation de Paul, Paul dit, c'est environ entre 14 ans et 20 ans. Entre le moment où Paul s'est converti, l'appel au ministère et la réalisation, c'est entre 14 ans et 20 ans qui se passe. Abraham va attendre entre la promesse d'Isaac et sa réalisation 25 ans. Amen. D'où mes bien-aimés, quand tu ne connais pas ta période de gestation, spirituellement, tu seras beaucoup frustré. Et beaucoup sont découragés ici dans l'église. Beaucoup pensent que Dieu est infidèle alors que tu portes une sémence de Dieu. Ton problème, c'est que tu ne connais pas si tu portes un rat, une baleine, un éléphant. L'ignorance de ta période de gestation cause les frustrations. Comment est-ce que les femmes ont appris qu'un bébé naissait en 9 mois? La première femme qui était enceinte ne savait pas. Elle est aussi partie. Elle savait que son ventre gautissait. Elle ne savait pas. Ève ne savait pas. C'est en observant les autres qui sont passés par le même chemin, qu'elles ont dit, une des façons de connaître ta période de gestation, c'est d'observer ceux qui sont passés par le même chemin. Mes frères, puisque tu méprises les autres là, puisque c'est toi-même seulement qui as l'onction, c'est normal que tu souffres parce que tu ne peux pas apprendre des autres. Quelle est la période de gestation pour la promesse de Dieu dans ta vie? Quelle est la longueur de la période de gestation? Êtes-vous avec moi ce matin? J'aimerais vous donner ce matin quelques caractéristiques essentielles du temps de gestation qui va pouvoir nous aider. Quand le Seigneur a commencé à m'expliquer ça, je vous dis que mes inquiétudes ont diminué. Parce que si tu sais ce qui se passe, tu es moins inquiet. Ce matin, quand vous sortiez et vous savez qu'il y avait la neige, vous êtes sorti sans manteau, vous avez porté quoi? Donc, la connaissance détermine alors mon comportement. C'est quand tu ignores que tu payes le prix de l'ignorance. Amen. Premièrement, le temps de gestation ou le temps d'incubation est le temps le plus important dans la grossesse. Pour Dieu, dans son plan, il était impératif qu'Israël aille en Égypte. L'Égypte semblait être un temps d'esclavage au vu du peuple. Mais pour Dieu, c'était une bénédiction nécessaire et un passage obligatoire pour qu'ils puissent rentrer dans leur réajustement. Amen. Deuxièmement, la nature de la sémence que vous portez en vous détermine votre temps de gestation. C'est tout. Israël, c'est 400 ans en Égypte pour devenir un peuple. Moïse, c'est 40 ans. Nous admirons Moïse, mais c'est 40 ans. Quelle est la semence que vous portez? Quel est le projet que Dieu a mis dans votre cœur qui appelle à un réajustement? Troisièmement, la qualité de ce que vous allez enfanter après la période de gestation est déterminée par ce que vous faites pendant le temps de gestation. Dès qu'une femme porte une grossesse, vous pensez que la femme là, elle commence à courir des marathons? Elle boit de l'alcool, elle fête, elle est dans tous les rave parties, elle prend un peu de drogue et puis beaucoup d'alcool, c'est ça? Remarquez que le comportement de la femme est déterminé par la semence. Par la semence qu'elle porte. Bien-aimés, nous sommes tous frères et sœurs, mais chacun dans l'église a le comportement de la semence qu'il porte. La dimension de ta sanctification est déterminée par le type de semence que tu portes. Voilà pourquoi des frères peuvent s'asseoir et ils boivent l'alcool, ils font des fêtes, ils sont à l'aise. Mais certains portent certains types de semences qui demandent certaines abstinences. Quand la mère de Samson portait la semence, je vous le prouve dans la parole de Dieu, portait la semence de Samson, qu'est-ce que l'ange lui dit? Pour le type de semence que tu portes, pas d'alcool. Parce que ce que tu fais avec ce que Dieu a mis en toi détermine la grandeur de ce que tu vas accoucher. Voilà pourquoi Dieu appelle certaines personnes au ministère, mais ils n'enfantent pas des grands ministères. Le problème, ce n'est pas le diable, c'est ce qu'ils ont fait pendant la période de gestation. Dieu vous appelle aux affaires. Vous ne priez jamais pour vos affaires. Dieu vous appelle aux affaires. Vous ne lisez pas. Vous ne prenez pas un cours. Comment démarrer une entreprise? Vous ne faites pas du réseautage. Mais quand le temps d'enfanter arrive, tu as une entreprise, mais tu as service à clientèle, zéro. Donc, tu es prospère, mais pas au maximum de ce que Dieu a planté en toi. La nature de la semence, non seulement détermine le temps de gestation, mais ce que vous faites pendant le temps de gestation détermine la quantité. Vous allez voir que pendant le temps de gestation, du moins je peux parler chez moi à la maison, il y a des goûts bizarres qui apparaissent. Va me chercher à 2h du matin des hamburgers. Mais ne mangez pas des hamburgers. Après ça, va me chercher des fleurs. Et puis, va me chercher cela. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'elle a besoin. C'est la semence qui a besoin. Oh frère, je peux te parler de la part de Dieu? Parfois, la semence qui est en toi demande un peu d'opposition dans ta vie. Pourquoi tu te plains? Amen. La semence d'Abraham demandait 400 ans d'esclavage. La semence qui est en toi peut demander que les hommes ne t'aiment plus, qu'on s'oppose à toi. C'est la semence. Quand l'hamburger arrive, la femme regarde et dit, je sais que ce n'est pas bon pour la santé, mais pour une raison que j'ignore, c'est que j'ai en moi. Donc ce qui t'arrive, ce n'est pas ce que le diable envoie, c'est la semence. C'est la semence qui est en toi, qui appelle certains problèmes, qui appelle certaines situations. Oh, j'ai besoin de lire. Dernièrement, la semence à moi m'a demandé de lire le livre de Nahum. Vous imaginez Nahum, c'est un livre donc. Pourquoi ne pas lire même Actes des Apôtres? Non, va lire Nahum. Va lire Sophonie. Va lire Habakkuk. Je me suis mis à lire ça depuis quelques jours. C'est la semence en moi qui demande pour que quand la semence va sortir, les os sont forts. Quand dans la période de gestation, la semence demande certaines choses, ne lui refuse pas. Je prêche à un autre niveau ce matin. Il faut saisir ce que je suis en train de vous dire. La semence appelle certaines choses en toi, appelle certaines situations, appelle certains problèmes. Et quand tu prises cela à la semence, tu risques d'enfanter quelque chose de difforme. Maintenant, tu as enfanté un enfant qui a des problèmes de calcium. Donc, dès qu'il court, il se casse les bras. Dès qu'on te fait des choses, tu n'avances pas. Mais ce que tu as en toi détermine ce que tu dois absorber. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quatrièmement, chaque semence, comme je disais tout à l'heure, a ses exigences pour une croissance maximale. Lorsque une femme porte une grossesse, elle sait que pour que mon bébé sorte au maximum de sa taille, c'est ce que vous voulez généralement, n'est-ce pas? Mais elle sait que je dois manger certaines choses, je dois me tenir dans un certain environnement. Cela me pousse, mes bien-aimés, à vous poser la question, qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu a semé en nous? Nous ne pouvons pas nous comporter tout le monde de la même manière. Non, c'est la semence que tu portes. C'est le temps de gestation. Parfois, tu vas voir quelqu'un, il est dans une réunion, il est seulement à genoux. Mais parce qu'il est dans son temps de gestation, laissez-le être dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et donc finalement, comme je disais, le temps de gestation produit en nous un comportement, une nouvelle discipline. Sans cette discipline-là, vous risquez d'arriver à un niveau où vous avez des promesses de Dieu dans votre vie. Vous imaginez, Dieu fait des promesses, vous fait des promesses, mais 3 dimanches sur 4, vous êtes absent. Donc, à chaque fois que la semence veut se nourrir, vous empêchez la semence de se nourrir. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Si vous avez la chance, vous risquez d'arriver, vous allez enfanter, vous allez voir, mais c'est quelque chose de petit par rapport à ce que Dieu voulait vous donner. Ou vous allez arriver en chemin, vous perdez simplement. Voilà pourquoi tu as beaucoup de chrétiens qui sont frustrés, beaucoup de chrétiens qui se demandent, mais pourquoi je ne vois pas la main de Dieu? Mais nourris la semence. Ta responsabilité, c'est de nourrir la semence. Et chaque semence demande un certain type de nourriture. Nous avons 3 enfants. Ma première fille, lorsqu'elle est née, mon épouse pouvait à peine bouger. Le dernier, quand il est né, elle bougeait partout, elle mangeait de tout. Mais la première, là, c'était un certain type de nourriture. Il fallait qu'elle soit couchée. La semence force en vous un certain comportement. Quelqu'un dit amen. Voilà pourquoi lorsque tu portes la semence de Dieu en toi, quand tu connais la nature de la semence, tu vas comprendre certains types de problèmes qui t'arrivent, tu vas comprendre certaines réalités qui arrivent dans ta vie. Quelqu'un dit amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Ceci étant mis en place, mes bien-aimés, maintenant, j'aimerais vous expliquer certaines choses qui vont pouvoir vous aider. Maintenant, nous avons nos 3 personnages. Abraham, qui est enceinte d'une nation, Élie, qui est enceinte d'une nouvelle saison, et nous avons Jacob, qui est enceinte d'une nouvelle réalité, et puis lui, s'apprête. S'apprête pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va rencontrer Ésaü au matin, et il est mieux d'avoir accouché un nouveau nom, parce que si jamais Ésaü arrive, trouve Jacob, Ésaü va tuer Jacob. Mais si Ésaü trouve Israël, qu'est-ce qu'Israël a fait à Ésaü? Rien. Rien. Donc Ésaü ne peut pas tuer Israël. Ésaü n'a pas un problème avec Jacob. Jacob est mort. Alors, ces 3 personnes-là, face aux mêmes réalités que toi et moi nous faisons face, ils sont entrés dans ce que j'appelle les douleurs de l'enfantement. Certaines situations que tu vis dans ta vie en ce moment, tu te plains, mais c'est les douleurs d'enfantement. As-tu déjà vu une femme avoir les douleurs de l'enfantement arriver à l'hôpital? Ou bien, et puis, commander les douleurs d'enfantement, non, je ne veux pas accoucher. Non, l'enfantement, en réalité, c'est ce que Dieu a mis en toi qui demande de sortir et ça cause des douleurs. Quand tu arrives dans une période d'enfantement, cela peut se produire simplement par une frustration de quelque chose que tu as toujours vu, mais maintenant ça t'énerve. Moïse arrive en Égypte. Il est né en Égypte. Toute sa vie, il a vu le peuple d'Israël esclave. Mais un jour, ça commence à l'énerver. Ah, la gestation, il avait déjà 40 ans, la gestation commençait à arriver à sa fin. Es-tu peut-être arrivé à la fin de ta période de gestation ce matin? Peut-être que tu es arrivé à la fin. Quelque chose qu'il avait toujours vu. Deuxièmement, par un changement soudain, des changements soudains et répétitifs. Tu as un emploi, tu perds. Tu as un emploi, tu perds. Tu as un emploi, tu perds. Ce sont des contractions spirituelles. Je vous dis que soudainement, Joseph rentre dans un cycle de sa vie où, première contraction, on les jette dans le puits. Deuxième contraction, il arrive chez Potiphar. Troisième, j'utilise des images pour nous aider. Troisième contraction, il arrive. Il finit par enfanter. Je te dis que tu vas enfanter. Je te dis que tu vas enfanter. Ne te plains pas de ce que tu es en train de traverser.
Ce que tu traverses est normal. C'est une zone de turbulence, mais ton atterrissage est garanti. C'est une zone de turbulence, mais l'avion dans lequel tu es ne va pas sombrer. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. La tempête que tu vis est une garantie que tu verras la gloire de Dieu. C'est quand Saül a perdu les ânesses qu'il semblait qu'il allait mourir. Vous savez, quand une femme est en contraction, je n'ai jamais été en contraction, mais elle a l'impression qu'elle va mourir. C'est la fin du monde. Frère, ce que cette église vit est normal. Nous sommes dans les douleurs de l'enfantement. Mais ne soyons pas comme le livre de la Bible dit dans le livre d'Ésaïe qu'il y a des douleurs d'enfantement, mais il n'y a pas de force pour accoucher. Que Dieu nous donne la force d'enfanter nos promesses. Amen. Troisièmement, c'est les manifestations des douleurs de l'enfantement. C'est soudainement, vous avez un manque de joie, manque de paix, insatisfaction pour le même travail ou le même ministère ou la même chose que vous avez toujours fait. Soudainement, ça ne vous dit plus rien. Ça ne vous dit plus rien, mais un projet, quelque chose qui dormait en vous commence à prendre de plus en plus. C'est ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Ça veut dire qu'une saison est terminée. Il est temps de commencer à sortir ce qu'il y a en vous. Maintenant, j'aimerais te dire quelque chose. Quand tu rentres dans les douleurs de l'enfantement et que tu ne veux pas laisser la promesse sortir, la semence sortir, elle peut te tuer. Elle peut te tuer. Quand l'enfant veut sortir, l'enfant se battra contre le corps. Même le corps ne veut plus de l'enfant. Mon frère, ma soeur, n'es-tu peut-être ce que tu vis actuellement? Oui, tu dis, je vis des secousses, ma vie est instable. Est-ce que tu n'es pas quelque part en train de vivre les douleurs de l'enfantement? Ça fait mal, mais c'est nécessaire. Ça fait mal, mais c'est un passage obligatoire. Ça fait mal, mais tu finiras par enfanter. Que faire lorsque tu arrives à cette étape-là? Est-ce qu'on peut dire ensemble le mot push? Ensemble le mot push. Ensemble le mot push. P-U-S-H. Mon frère, ma soeur, lorsque tu arrives à ce niveau-là, il faut faire ce que Élie a fait, ce que Abraham a fait et ce que Jacob a fait. Ils ne se sont pas contentés de pleurer, mais ils ont push. En anglais, ça veut dire pray until something happens. Prie jusqu'à ce que quelque chose arrive. Ils n'ont pas dit, oh Dieu, je suis victime de mes circonstances, les gens ne m'aiment pas, Seigneur, vraiment, moi, heureux ceux qui se confient à l'Éternel, quand ils traversent la vallée de Baca, ils accourent près de l'arbre, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, encore moi, Seigneur, je suis malheureux sur la terre des hommes. Ils ont dit, je vais pousser pour que ce qui est en moi sorte. Il y a des choses qui ne s'enfantent que par la force. Il y a des choses qui ne s'enfantent pas par des petites prières sporadiques. Jésus dit que cette espèce ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a des choses qui s'enfantent par le jeûne et la prière. Il y a des choses qui s'enfantent quand je mets mes genoux à terre pendant 4 heures, pendant 5 heures, pendant des jours. Je vais au travail, je retourne à la maison, je push. Je vais au travail, je rentre à la maison, je push. Je pleure, mais je push. Je ne sens rien, mais je push. Je souffre, mais je push. Je pousse, je pousse dans le spirituel afin de réajuster le naturel. Ceux qui enfantent leurs promesses, ce n'est pas des gens, bon, ça sortira si ça veut, ça doit sortir parce qu'en ce moment, j'ai tellement mal que je veux que ça sorte. Pousse. C'est ce que Abraham a fait. Découragé. La Bible dit que les oiseaux des proies se sont abattus sur l'offrande. Ils ne savaient pas si Dieu allait venir. Ils n'avaient pas d'enfant, mais il était découragé. Mais il dit, je pousse, je continue à pousser. Ma dimension de pousser n'est pas liée à une réunion à l'église, mais ma dimension de pousser est dans mon intimité, dans mon salon, quand je suis en train de pleurer devant Dieu depuis minuit jusqu'aux 4 heures du matin. Dieu cherche une génération qui est enceinte et qui peut pousser pour que la promesse sorte, pousser pour que l'accouchement spirituel arrive. Dieu ne cherche pas des chrétiens qui sont simplement assis en train de se morfondre, mais des chrétiens dont le sein spirituel peut s'ouvrir pour que la promesse passe de l'étape de la parole à l'étape de la réalisation. Pour que l'église avance, il faut que les intercesseurs poussent, il faut qu'on pousse ensemble. Bien-aimée, la femme qui porte la semence, elle peut être entourée de toutes les infirmières. Il n'y a personne qui pousse pour elle. Amen. C'est elle-même qui pousse. Dis à quelqu'un, tu dois pousser. Dis à quelqu'un, tu dois pousser. Découragé, je pousse. Abattu, je pousse. Dans la joie, je pousse. Dans les larmes, je pousse. Les hommes m'abandonnent, je pousse. Les hommes me délaissent, je pousse. Critiqué, je pousse. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Je cours vers le but. C'est cette dimension-là, mes bien-aimés. Se morfondre ne va rien changer à ton état. Pousse. Pleurer ne va rien changer à ton état. Pousse. Être abattu ne va rien changer à ton état. Pousse. Il faut que tu pousses. Amen. Pour pousser, non seulement il faut se tenir dans la présence de Dieu, mais il faut apprendre à combattre le découragement. Parce que pendant que la femme pousse, surtout si c'est son premier, elle n'a jamais vu un bébé sortir. Donc elle ne sait pas s'il va sortir. Imagine-toi une femme qui pousse et qui est découragée. Qu'est-ce que le corps fait, maman? Qu'est-ce qu'il fait? Le corps se contracte. Voilà. J'annonce que tu n'accoucheras pas par césarienne. Il n'y a pas de césarienne. Il y a un accouchement naturel. Pousse, pray until something happens. Il n'y a pas de miracle. Prie. Ce n'est pas des prières gentilles, c'est des prières sauvages. C'est des prières où tu as dormi sur le dos, tu as eu mal. Tu as dormi sur le ventre, tu as eu mal. Tu as dormi sur le côté, tu as eu mal. C'est des prières où tu dis, Dieu, où je meurs, où je vois. Sors, sors, que ma promesse sorte, que ma promesse sorte. Je pousse, j'ai mal, mais je pousse. Je pousse jusqu'à ce que je vois la gloire de Dieu. Quand la femme est en train d'accoucher, vous allez voir qu'elle va faire quelque chose. Si son mari est là, hey, chérie, on a un bébé, il va dire, sors de la salle. Tout élément de distraction est enlevé. Tout élément de distraction, de critique. Pourquoi tu te préoccupes de gens? Prie! Pourquoi tu te préoccupes? Oh, on m'a dit, on m'a insulté. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Il y a des moments où on ne discute plus. Il y a des moments où on pousse. Il y a des moments où on pousse. Parce que ce qui va sortir de toi est plus grand que les critiques. Ce qui va sortir de toi est plus grand que les paroles des hommes. Ce qui va sortir de toi est plus grand que ce que les hommes peuvent. Pourquoi tu te limites aux hommes? Pousse, pousse pour voir la gloire de Dieu. Deuxièmement, la constance. Ceux qui font la prière d'enfantement, c'est les gens qui sont constants dans leurs demandes. Jésus dit qu'un homme est venu la nuit. Son ami est parti voir son ami. Des invités sont venus. L'homme a tellement insisté. Jésus dit, mais son ami est sorti, l'ami lui a donné du pain. Jésus parle de la femme et le juge unique. Le juge dit non. J'ai le pouvoir, j'ai la capacité, je justifie qui je veux. Mais la femme a tellement insisté, le juge a dit, même si je ne crains pas Dieu, frère, il y a des types de prières que tu fais. Hein? Donc, même l'enfer est obligé de reculer. Il y a des dimensions de prière. Pas la prière, oh, tu es Jéhovah Jireh. Non, il y a des dimensions où tu ne pries. Tu ne parles même plus. Mais là, tellement que la douleur d'enfantement est grande. Tu as l'impression que physiquement, rien ne se passe. Mais la promesse est en train de passer du spirituel dans le naturel. Mais pour qu'elle passe du spirituel dans le naturel, elle doit te traverser. Et ça fait mal. Amen. La constance, soyez constants. Troisièmement, la persévérance. Élie envoie son serviteur 7 fois à la montagne. Il dit, va voir. Je n'ai rien vu. Va voir. Élie se met à genoux et commence à pousser. Il dit à son serviteur, va voir. Je ne prie pas en espérant ne pas voir. Je prie avec la foi que je verrai la main de Dieu. Car la foi est une assurance des choses que l'on espère. Une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont reçu un bon témoignage. Mon frère, pousse. Pousse. La persévérance. Élie, et quand on vient lui dire, je vois du côté de la mer un nuage. Dieu, donne-moi des frères qui peuvent voir avec moi quand je ne peux pas voir. Je vois un petit nuage comme une paume de main. Élie dit, ah, l'accouchement est terminé. Maintenant, il faut courir. Comme une femme, lorsqu'elle accouche, elle a des douleurs, mais lorsque le bébé est là, la douleur est partie, la joie est là. Élie est en train de courir, descend de la montagne et dit, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Quatrièmement, ayez du mordant. Frère, ayez du mordant. Les gens qui voient leur réajustement, ce n'est pas des chrétiens qui prient avec tellement de politesse. Bon, Dieu, si tu veux pas. Non, non, non. C'est des gens qui font sauter les verrous de fer dans leur vie. Amen. Qui disent que cette situation doit changer. Amen. Es-tu ce genre de personne-là? Ou bien nous sommes devenus des chrétiens tellement découragés. Même la façon dont tu rentres au culte, on sait que... Eh, et puis celui qui demande, s'il y a des frères qui sont découragés, frère, pourquoi tu es découragé? Tu as toute la Bible. Tu as toute la Bible. Tu as toutes les promesses. Amen. Tu es découragé, pourquoi? Amen. Ok, découragé à un moment, je comprends. Mais dimanche après dimanche, tu es découragé. Il faut qu'on me motive. Non, ne sois pas motivé, accouche. Amen. On aura beau te motiver, mais personne ne peut pousser ta promesse hors de toi. Bien-aimé, quand j'ai compris ça au niveau du ministère, tout mon comportement a changé. Mon attitude a changé. Ma façon de me présenter a changé. Même ma façon de prêcher a changé. Maintenant, je veux me mesurer à l'excellence pour nourrir ce qu'il y a en moi. Frère, tu portes en toi une semence. Ne laisse pas les gens te faire avorter. Ne laisse pas les gens te décourager. Est-ce qu'on peut se lever un moment dans la présence de Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur un moment? Alléluia. Si tu as reçu cette parole dans ton esprit, on va se lever, on va acclamer le Seigneur. On va acclamer le Seigneur ce matin. On va acclamer le Seigneur ce matin. Dieu a déposé en toi quelque chose, ne le néglige pas. Ne le néglige pas. Ne le néglige pas. Je ne fais jamais le ministère en fonction du nombre de personnes devant moi. Je fais en fonction de ce que la semence en moi va porter. Je fais en fonction de la dimension de la semence en moi. Et quand je fais ça, je nourris la semence. Tu as besoin, si tu es en étape de gestation encore, tu as besoin de nourrir la semence. Si tu es à l'étape où, des contractions, mais accepte les malaises qui viennent avec. Si tu es à l'étape d'accouchement, push. Pray until something happens. Pray until something happens. À partir d'aujourd'hui, je prends autorité dans cette salle contre tout esprit de découragement. Je le lis au nom de Jésus. Tout esprit de découragement, tout nuage d'encouragement sur ta vie qui fait que tu es toujours en train de te morfondre, de te plaindre. Au nom de Jésus, la Bible dit que nous avons reçu en nous un esprit de force. Paul dit que l'évangile est une puissance. Vous avez une puissance en vous que vous devez dégager cette semaine et pousser. Poussez pendant l'année. Car la Bible dit, quand vous allez commencer à pousser, les circonstances vont commencer à s'aligner. Est-ce qu'on peut incliner la tête un moment? Nous allons prier pour terminer ce moment. Je te le dis que si tu crois, tu verras.